les enfants de Cronos. Bonjour à tous, chers auditeurs, Colas Bilot, archéologue. Bienvenue dans le troisième épisode de notre série consacrée aux châteaux médiévaux du Valois. Aujourd'hui, le château de Cémon. Dans la vallée de la Crise, au cœur du beau paysage vallonné du Soissonnais, s'élève le témoin formidable du domaine rural des évêques de Soissons, la tour du château de Cémon. L'on doit vraisemblablement d'abord à Jacques de Bazoche, évêque entre 1219 et 1242, la commande de la salle Saint-Louis, puis à son lointain successeur Simon de Bussy, évêque de 1362 à 1404, la construction de la curieuse tour qui ne souffre aucune comparaison dans tout le royaume de France. Figurez-vous donc une cour trapézoïdale d'environ 100 mètres sur 70. L'enceinte à arcades qui la dessine est incomplète, mais présente encore quelques tours à toit conique de pierre et une simple porte à échauguette qui témoigne elle-même d'un parti architectural peu défensif. Nous pourrions même dire assez modeste, mais très raffiné. Ce qui attire l'œil, dès que vous franchissez la courtine, c'est évidemment la grande tour, le donjon comme l'on dit, dont les volumes imbriqués paraissent les témoins d'une architecture extraordinairement complexe. Il s'agit en réalité plutôt d'une variation très habile et grandiose autour d'un thème devenu en architecture castrale un thème assez commun, celui de la tour maîtresse circulaire. À cette tour circulaire donc, profil de tour que l'on doit au roi Philippe Auguste, qui avait inventé ou en tout cas qui avait généralisé ce modèle lors de son règne au tournant des XIIe et XIIIe siècles. On avait à Cémon greffé d'abord un escalier en vis, hors œuvre. J'entends par hors œuvre qu'il lui a été greffé à l'extérieur, qu'il pourrait en être dissocié, qu'il est une structure indépendante. Au pied de cette tour, on vient greffer un autre élément, une descente d'escalier vers la cave, depuis l'extérieur, qui est habilement couverte d'une structure maçonnée qui servira de balcon de prestige et pourra même éventuellement être utilisée comme tribune pour s'adresser à la foule qui se masse dans la cour lors des réunions publiques. Ne jamais oublier à ce titre que la cour d'un château est aussi un espace de réunion et un espace de témoignage. Dans cette tour, au rez-de-cour, un espace de cuisine très probablement, même si presque uniquement la cheminée permet d'en témoigner. La cuisine est très souvent au rez-de-chaussée pour des simples raisons d'accessibilité aux espaces techniques qui sont dans la cour. Au premier étage, la salle, la aula, l'espace public ou semi-public de la tour, la salle dans laquelle seront réunis les gens qui aident l'évêque à gouverner ou qui sont convoqués. Au deuxième étage de la tour, la chambre du maître de maison, la chambre de l'évêque. Et puisqu'il est évêque, on y trouvera un cabinet associé qui dut être un oratoire. Et à l'inverse, parce qu'il est évêque, on ne trouvera vraisemblablement pas de seconde chambre pour la famille, ce personnage n'étant pas normalement censé être marié. Mais bien qu'on ait déjà résumé là toutes les fonctions que l'on trouve habituellement dans une belle tour maîtresse, ça ne s'arrête pas là à Cémon. On trouvera encore une série de trois autres chambres aux trois étages suivants, ce qui fera culminer le plancher de la dernière chambre à près de 35 mètres au-dessus du niveau de la cour. C'est véritablement un chef-d'œuvre qui s'élève et qui marque le paysage dans ce territoire. L'œil habile remarquera que le dernier tiers de la tour est moins volumineux que les étages précédents et que cela est dû à l'intégration d'un chemin de ronde à mâchicoulis large et élégant, en encorbellement. En ce sens-là, on s'inspire vraisemblablement de ce que l'on trouve dans les formules des châteaux qui sont en cours de construction à la même époque. J'entends par là notamment le Louvre de Charles V, le château de Creil, le château de Compiègne, le château de Vincennes, tous les châteaux du règne de Charles V bâtis par le roi de France lui-même. Et ils inspireront vraisemblablement des châteaux de notre territoire, parmi lesquels Pierrefonds. Mais est-ce d'ailleurs vraiment un chemin de ronde, ou plutôt une excuse du maître d'œuvre pour se faire réaliser une belle galerie de promenade couverte, offrant un point de vue remarquable sur la vallée et sur le parc? Il manque bien sûr les trois toitures à cette tour aujourd'hui, mais elle n'en reste pas moins remarquable, avec les culots sculptés grimaçants de la voûte de l'oratoire, les belles cheminées à pans, les belles baies à meneaux, les latrines associées aux parties résidentielles, mais séparées pour éviter d'être incommodées par les mauvaises odeurs. Et c'est cette élégante tour-escalier qui se termine en tourguette et qui culmine à près de 44 mètres, qui est la signature définitive de ce vaisseau de pierre caractéristique. Daté de 1360-1370, il est donc contemporain de la construction, nous l'avons dit, du Louvre ou du château de Vincennes, et il est certain que Simon de Bussy, à Sémont, a dû faire un appel à un grand architecte qui devait peut-être être dans l'orbite royale ou qui en tout cas connaissait fort bien ces chantiers-là. La seconde tour circulaire de l'enceinte, elle, est très modifiée au XIXe siècle pour le confort d'une riche américaine qui s'était portée acquéreur du site et qui avait même fait aménager un ascenseur, conception très moderne à l'époque, de la restauration d'un édifice. Et la troisième tour importante du site, la salle Saint-Louis, se résume aujourd'hui au magnifique rez-de-chaussée d'une ancienne tour carrée voûtée d'ogives à chapiteaux et qui présentait à l'origine vraisemblablement une cheminée à chaque étage. Des élévations difficiles à déchiffrer témoignent d'ailleurs au-dessus de ce rez-de-chaussée d'anciens étages nobles disparus et desservis par un escalier en vis. Ces trois tours étaient reliées entre elles au XIVe siècle par un chemin couvert sur la rase de l'enceinte, ce qui prouve ici encore que le parti résidentiel et le confort ont primé sur la défense dans le site. Le chemin de ronde avait été transformé en galerie. À n'en pas douter, Sémont a dû faire l'admiration des contemporains de Simon de Bussy et il le sera d'ailleurs pour tous ses successeurs. Un logis au XVIe siècle sera greffé au cœur de la cour. On le trouve encore aujourd'hui et il a dû être un très bel élément d'architecture lui aussi, malheureusement profondément remanié au XIXe et XXe siècle dans un style, disons néo-gothique, un peu lourd et un peu gauche. Des visiteurs célèbres sont venus à Sémont et ont été subjugués par la beauté de l'édifice. Citons parmi eux Victor Hugo, dont on sait qu'il a laissé un graffiti dans une des tours de la grande tour maîtresse. Et dit-on aussi Walt Disney lui-même, qui, soi-disant, s'en serait inspiré, ainsi que du château de Pierrefonds d'ailleurs, pour créer les châteaux improbables qui peuplent ces contes de fées. Précisons que Sémont est aussi célèbre pour sa très belle église et ses grandes carrières. Effectivement, les carrières du château de Sémont sont probablement les mêmes que celles qui sont encore exploitées aujourd'hui. Nous sommes dans un territoire carrier que le fabuleux appareil en belle pierre calcaire qui marque toute l'enceinte et toute la tour témoigne d'un art et d'une maîtrise des maçons qui est presque sans équivalent en dehors du Valois et du Soissonnais. Prochain épisode, le château d'Armentières-sur-Ourcq, un château du XIIIe siècle. Thank you.